Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une ce matin. Donc enfin un cap pour l'économie française. Emmanuel Macron a présenté hier son plan de déconfinement en trois temps. Alors dès samedi, les commerces non essentiels vont pouvoir rouvrir jusqu'à 21h avec des protocoles sanitaires stricts. Le chef d'État de l'État d'ailleurs n'a pas détaillé ce fameux protocole. On devrait en savoir plus dans la journée ou d'ici jeudi. Nous serons à partir de samedi donc en phase de déconfinement partiel. Le 15 décembre, nous passerons en couvre-feu. Ce sera le temps de la libération pour les musées, les cinémas, la restauration, les salles de sport. Elles devront attendre le 20 janvier. De même que les stations de ski qui vont devoir faire une croix sur les vacances de Noël. Aucune date de réouverture en revanche pour les bars et les discothèques. Enfin, un calendrier. Mais une fois de plus, les annonces tombent au dernier moment. Il va falloir se préparer en catastrophe. C'est le sentiment de Laurent Munro, le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Écoutez.
Je n'ai pas connaissance de l'exact contenu du protocole sanitaire. Nous avions depuis le départ demandé qu'il y ait 2 ou 3 jours de préparation afin que aussi bien les commerçants que les activités puissent se préparer à la réouverture en connaissance de cause sur, par exemple, la jauge qui devra s'appliquer, que les commerçants comme les fleuristes puissent avoir le temps de commander les fleurs nécessaires à leur ouverture dans de bonnes conditions. On voit qu'encore une fois, on ne leur laisse pas le temps nécessaire et c'est bien dommage.
Le président de l'UDP, Laurent Munro, au micro d'Éric Mauban. Par ailleurs, quoi qu'il en coûte, reste la règle avec une nouvelle mouture du fonds de solidarité. Ce sera la troisième. Alors plutôt que le forfait de 10 000 euros, les entreprises pourront demander à toucher 20% de leur chiffre d'affaires 2019, quelle que soit leur taille, dans une limite tout de même de 100 000 euros. Le Parlement d'ailleurs a adopté hier le 4e projet de loi de finances rectificative qui débloque 20 milliards d'euros supplémentaires pour donc le fonds de solidarité, mais aussi le chômage partiel et les exonérations de charges. À noter qu'après l'adresse aux Français du président, le site internet de la SNCF a été pris d'assaut, plus 400% de ventes pour la période de Noël dans l'heure qui a suivi l'adresse aux Français du président. Concernant maintenant la vaccination, la campagne débutera donc fin décembre, début janvier également. Elle ne sera pas obligatoire, cette vaccination. Dans le monde entier, d'ailleurs, on se prépare à une opération littéralement hors norme. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors, illustration aux États-Unis où c'est l'armée américaine qui va assurer la logistique de la vaccination.
Voilà, branle-bas de combat, tout le monde se met en ordre de bataille pour relever un défi historique, livrer des millions de vaccins en un minimum de temps et de la manière la plus efficace possible. Le grand organisateur du dispositif est au cœur de l'administration américaine. Des militaires et des experts logisticiens vont établir la feuille de route pour acheminer les vaccins dans tout le pays. Les objectifs sont ambitieux. Le feu vert administratif pourrait être obtenu peu après le 10 décembre. Il s'agit de vacciner 6 millions de personnes la première semaine. Le défi logistique est énorme. Il faudra maintenir la chaîne du froid pour certains vaccins et assurer leur transport alors que certaines compagnies aériennes fonctionnent au ralenti. L'armée devra travailler en étroite collaboration avec 64 juridictions, dont 50 États. Ce sont eux qui devront définir où seront livrés les vaccins. Ils donneront une liste au gouvernement fédéral qui sera en charge de la livraison. Ce seront les gouverneurs de chaque État qui décideront des personnes à vacciner en priorité.
Dans des délais records, moins de 48 heures après l'autorisation qui devrait être délivrée aux alentours du 10 décembre. Merci Éric Mauban. Vaccin toujours. La Russie affirme elle de son côté que son vaccin Sputnik V est efficace à 95%. Il est actuellement en phase d'essai clinique 3 en Russie, mais aussi aux Émirats, au Venezuela et au Bélarus. Ce vaccin russe a l'avantage de pouvoir se conserver entre 2 et 8 degrés. Il sera vendu moins de 10 dollars la dose en Europe. Seule la Hongrie, à cette heure, en a passé commande.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h43, pendant la crise, la France s'est endettée de 500 milliards d'euros supplémentaires. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces créances? Faudra-t-il les rembourser? Si oui, comment? Faudra-t-il augmenter les impôts? Ou bien va-t-on demander à la BCE d'annuler ses dettes Covid? Immense question. Pour y répondre, le gouvernement a missionné hier une commission sur l'avenir des finances publiques. Cette commission compte une dizaine de personnalités, notamment l'ex-patronne du MEDEF, Laurence Parent, Parizeau, les anciens ministres Marisol Touraine et Jean Arthuis, ou encore le PDG d'ADP Augustin de Romanet. La commission devrait achever ses travaux d'ici fin février. En attendant, le moral des chefs d'entreprise n'est pas bon. L'indice INSEE du climat des affaires recule ce mois-ci de 11 points à 79, 100 représentant la moyenne de longue période. Sans surprise, c'est pour le commerce que la détérioration est la plus forte. D'ailleurs, selon l'assureur crédit Euler Hermès, une entreprise sur quatre en zone euro pourrait connaître l'an prochain une crise de trésorerie. Écoutez Anna Boita, elle est la directrice de la recherche macroéconomique chez Euler Hermès.
On a l'automobile, par exemple, parmi ces secteurs, et une partie des services, tout ce qui est textile, tout ce qui est distribution, grande distribution, non agroalimentaire. Donc, on a quand même un certain nombre de secteurs qui sont partis dans cette crise sanitaire avec des conditions et des fondamentaux pas très forts. Et donc, c'est là où ce choc s'ajoute à des conditions initiales qui étaient assez affaiblies. La question de la volonté de ces entreprises à prendre davantage de dettes va se poser. Et c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement craindre une crise de trésorerie et le défaut de certaines de ces entreprises.
Voilà, quand la crise s'ajoute à des fragilités précédentes. Le transport aérien, lui, chiffre ses pertes pour 2020. Le chiffre d'affaires va passer de 838 milliards en 2019 à, tenez-vous bien, 328 milliards seulement cette année. Effondrement de plus de 60%. Le trafic passager recule au niveau cette année de 2003. L'automobile avec Renault qui se lance dans l'économie circulaire. Le constructeur va annoncer aujourd'hui les détails de la reconversion de son usine historique de Flins dans les Yvelines. Flins va connaître une seconde jeunesse et devenir la vitrine du groupe pour le recyclage et le reconditionnement des pièces mécaniques. Céline Cajoulis.
Un savoir-faire très spécifique est réalisé jusqu'à présent sur le site de Choisy-le-Roi par 260 employés et qui va être transféré à Flins. Et si une partie des salariés suivra, il va falloir reconvertir environ 1600 personnes qui fabriquent actuellement des Renault Zoé ou des Nissan Micra. Des formations longues qui vont débuter dans quelques mois pour que la nouvelle activité soit opérationnel en 2024 lorsque cessera la production de voitures. L'idée, c'est de donner une seconde vie aux boîtes de vitesse, moteurs ou injecteurs, mais aussi aux batteries électriques, pour réduire le nombre de pièces neuves utilisées pour réparer les voitures. C'est ce que l'on appelle un échange standard. Il y aura également du reconditionnement de véhicules d'occasion récupérés auprès des concessions pour une remise à niveau avant revente. Une nouvelle orientation pour le constructeur qui correspond bien aux attentes des automobilistes qui veulent à la fois préserver l'environnement tout en faisant des économies.
Les marchés pour finir, le CAC en forte hausse hier, plus 1,21%, 5 558 points. Mais la sensation était à Wall Street, où le Dow Jones a clôturé hier pour la première fois au-dessus de 30 000 points, 30 046 pour être exact. On se rappelle qu'en mars, le Dow Jones était tombé à 19 000 points. Record aussi pour le Nasdaq, 12 036 points. Lui, il était sous 6 800 le 20 mars. C'est absolument stupéfiant. À noter le titre Tesla qui bondit de 6,5%, faisant au passage d'Elon Musk le deuxième homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 128 milliards. Elon Musk qui n'a plus devant lui que Jeff Bezos et qui met derrière lui Bill Gates. Un mot du Bitcoin, il est au-dessus ce matin des 19 000 dollars. On n'est plus très loin du record d'il y a...